On est du mandat de l'ICANN, savoir qu'il y ait une révision de la GNSO. Bien évidemment, nous examinons cette question dans ce contexte. La plupart d'entre vous savent que la GNSO vient de finir un processus de révision qui a donné lieu à cette structure dont je vous parlais avant et qui a été le fruit d'un grand travail de la communauté et qui a également consommé une grande partie de nos ressources. Il s'agit donc d'une question sur laquelle nous nous penchons. Et face au nouveau GTLD, il serait peut-être prudent de demander à ce que l'on reporte le processus de révision, que l'on reporte ce processus d'un an, de façon à avoir plus longtemps pour pouvoir mesurer l'impact des nouveaux GTLD sur la communauté de la GNSO. Pour nous, cela n'a pas beaucoup de sens de commencer une révision avant d'avoir une idée précise de la situation. Ceci dit, en guise d'introduction, j'aimerais maintenant donner la parole à tous les membres de la GNSO qui voudraient poser des questions ou aux membres du GAC qui voudraient poser des questions. Merci beaucoup. Jonathan Robinson prend la parole. Je représente le groupe de parties prenantes des registres. Et j'aimerais rebondir sur ce que Stéphane vient de dire. Nous ne pouvons pas prévoir quel sera l'impact ou le résultat exact de ce programme, et cela pour de nombreuses raisons. Or, dans notre groupe de parties intéressées, nous prévoyons des changements, et donc je pourrais vous donner un exemple du travail que nous faisons dans notre groupe de parties intéressées du registre. Nous travaillons sur les modifications, sur les révisions de notre charte, afin de pouvoir faire une place aux observateurs pour que les candidats puissent déjà s'engager dans notre processus, dans une étape assez précoce. Et ceci pour qu'ils commencent à travailler avec le regroupement, les différents regroupements. Jusqu'à présent, l'approche a consisté à prévoir une évolution et non pas une révolution au sein de notre groupe. Et un des facteurs fondamentaux est le fait de prendre en compte du fait que les représentants nouveaux pourront peut-être ne pas se représenter eux-mêmes. Ils pourront peut-être choisir d'être représentés par des consultants et donc rejoindre ses intérêts dans le groupe des parties intéressées. Ce sont donc des changements que l'on peut prévoir, mais on ne peut pas en être sûr. Dans la pratique, nous avons introduit des changements dans notre charte et nous avons envoyé ces modifications au conseil d'administration de l'ICANN. Nous avons communiqué donc ces changements au conseil de l'ICANN. Et nous avons pu constater un accueil favorable de la part de 25 membres observateurs. Ce groupe avait avant 20 membres. Et nous avons donc commencé à absorber ces observateurs au sein de notre groupe. Ce changement est en ligne avec une demande reçue de la part du conseil d'administration. Dans ce sens, à savoir, il fallait que l'on commence, si on ne l'avait pas fait, donc il fallait que l'on commence à envisager ces changements de la part du groupe de parties intéressées des registres. Ce groupe donc travaille déjà sur cette question et cela va s'étendre au conseil de la GNSO. Stéphane prend la parole. Merci Thomas. Thomas prend la parole. Je suis Thomas Aycott. Je suis délégué du conseil de la GNSO et j'aimerais partager avec vous une remarque. Outre ce qui a été dit par Jonathan et Stéphane, nous nous inquiétons pour les unités le regroupement, nous voulons qu'elles aient de plus en plus de membres. Cela nous inquiète, mais en même temps, un grand nombre des candidats ne veulent pas s'engager, ne veulent pas participer. Donc, on sait qu'il faudra peut-être mettre en place une restructuration, une réforme, et on sait qu'il faudra faire en sorte que les nouveaux participants nous rejoignent et participent et s'engagent. C'est voilà notre préoccupation en ce moment. Merci. La présidente du GAC prend la parole. Cela est très utile. Je pense qu'il serait très utile, justement, de partager des informations, d'échanger des informations dans ce sens pour que l'on sache quel est le rôle qu'a eu le GAC dans ce processus. Nous avons pu constater un intérêt de la part de certains gouvernements qui veulent rejoindre le GAC ou qui veulent avoir de représentants dans le comité. Et nous avons pu constater également qu'il y a un certain intérêt de la part des organisations intergouvernementales de participer au comité en tant qu'observateurs. Nous avons constaté une augmentation significative de l'intérêt dans ce sens. Et il s'agit bien sûr de quelque chose de positif. Avoir une grande représentation des différents gouvernements et des différentes régions est très important. Nous voyons donc ici qu'il y a un changement qui va dans le sens de ce que vous venez de décrire au sein du groupe auquel vous appartenez. La Commission de l'Union européenne prend la parole. Le représentant de l'Union européenne prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci au GNSO d'être ici parmi nous. Une question, je veux m'assurer d'avoir bien compris ce qui vient d'être dit par le président de la GNSO. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas des chiffres précises en ce qui concerne le nombre de candidats du programme des nouveaux GTLD sont ou ne sont pas membres ou sont ou pas représentés à la GNSO. Est-ce comme ça? C'est correct. Nous n'avons pas cette information. La présidente du GAC prend la parole. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Représentante d'Argentine prend la parole. J'ai une question. Parmi les presque 2000 candidatures, il y en a 24 qui correspondent à l'Amérique latine et 17 qui correspondent à l'Afrique, si je ne m'abuse. Comment la GNSO envisage-t-elle d'aborder ces activités de diffusion ou de sensibilisation pour pouvoir arriver à des régions où il y a très peu de candidats et très peu de représentants de ce nouveau regroupement? Merci, Olga. Stéphane prend la parole. Je voudrais voir si les membres de la GNSO voudraient répondre. Jeff. Merci, Olga. Je suis Jeff Newman. Je suis vice-président du conseil de la GNSO. D'après ce que j'ai vu, en ce qui concerne les candidatures, elles ne semblent pas être très nouvelles. Il y a des enregistrements de back-end qui sont engagés dans le processus de l'ICAN. Ils ont des consultants ou bien la région africaine a déjà participé à certaines activités. Donc, tel que Stéphane l'a bien dit, on n'a pas les informations précises par rapport au nombre de candidatures, mais nous sommes déjà parvenus à atteindre certaines parties qui sont déjà engagées dans les processus de l'ICAN. Ils ne s'approchent pas de nous de façon naturelle, ils y arrivent par d'autres chemins. Mais nous sommes intéressés à pouvoir atteindre ce type de région. Et une fois que l'on pourra mieux savoir quels seront les candidats, nous pourrons mieux cibler nos activités. Nous avons 1930 demandeurs ou candidats, mais il y en a 1300 ou 1400 chaînes de caractère au total qui pourraient devenir des GTLD. Donc, une fois que tout sera mis en place, tout sera plus tranquille, on pourra mieux cibler nos activités pour que ces représentants puissent rejoindre nos activités. Merci, Jeff. Je donne la parole à l'Italie. L'Italie prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je comprends qu'il est un peu prématuré pour imaginer l'impact que cela pourrait avoir sur la GNSO, l'impact que les nouveaux GTLD de cette première série pourraient avoir sur la GNSO. Mais du point de vue du marché, cela est assez compréhensible. Étant donné que la famille des GTLD va s'accroître, mais non pas significativement. Depuis les 22 registres à des centaines ou des milliers, et qu'il y aura après un nouvel appel à candidature, je me demande si vous essayez aussi d'évaluer dans cette liste de 1930 candidatures, si vous donc analysez la typologie, c'est-à-dire l'évolution, pour voir si cela est en ligne avec les attentes des utilisateurs, les attentes du secteur privé, et pour voir si cette évolution donc des registres va pouvoir se réaliser. Et je vous pose cette question parce que tôt ou tard, lorsque le panel de révision pour les nouveaux GTLD verra que l'affirmation d'engagement commence à être mise en place, il y aura bien sûr des opinions extérieures à l'ICANN qui vont essayer de juger l'évolution des noms de domaine génériques. Je pense que vous, en tant qu'organisation de soutien, vous devriez commencer à travailler sur cette évolution. Pourriez-vous confirmer cela ? Stéphane prend la parole. Je vais vous répondre très brièvement. Je passerai la parole à un autre membre. Comme on l'a déjà dit, la GNSO est une structure qui représente des groupes. Et chaque groupe à l'intérieur de la GNSO a commencé à analyser l'impact possible de ces processus. Certains groupes, Jeff et Jonathan l'ont déjà dit, les registres par exemple, les bureaux d'enregistrement par exemple, le groupe que je représente, qui a deux représentants au sein du Conseil. Donc ces groupes ont commencé à analyser l'origine, le format ou peut-être la constitution des candidats possibles. Il ne faut pas oublier que nous avons pris conscience de tout cela il y a quelques semaines. On n'a pas eu le temps d'analyser cette question en profondeur et cette liste contenait plusieurs surprises pour nous. Il nous faut encore analyser en profondeur cette liste, mais il est vrai que le Conseil ou l'ensemble des groupes qui appartiennent au Conseil sont déjà en train d'analyser cette question. Chaque groupe se penche sur cette question de façon indépendante car il y a un impact possible sur la constitution de chaque groupe. La Norvège prend la parole. Merci, c'est le représentant de la Norvège. Je vous remercie pour vos commentaires et pour votre présentation. Juste une remarque. Comme vous l'avez bien dit, il est encore prématuré de connaître l'impact, mais je pense qu'en redéfinissant la charte et le mandat, il y aura bien sûr des membres nouveaux, comme les registres par exemple. Et vous allez probablement redéfinir la représentativité du Conseil de la GNSO, combien de membres provenant des différents regroupements. Et je suppose que les nouveaux mandats pour les catégories de registre constituent de nouveaux regroupements basés sur la communauté géographique, etc. Je pense que cela aura un impact sur la façon dont le conseil de la GNSO est représenté et sur la façon ou sur le nombre de représentants des différents regroupements qui feront partie de la GNSO. C'est des aspects qui devront être pris en compte au moment d'évaluer les chiffres. Merci. Stéphane prend la parole. J'aimerais prendre ce commentaire comme si c'était une question et y répondre. Il s'agit d'une très bonne réponse, d'une très bonne question, pardon. Qui fait déjà partie de la constitution du Conseil, qui découle du processus de révision dont j'ai parlé auparavant. La structure bicamérale, et notamment le groupe de parties intéressées, la structure de regroupement, est une structure nouvelle. Et pour ceux qui sont familiarisés avec la GNSO, avant cette révision, ces gens savent qu'il y a une révision qui a donné lieu à une nouvelle structure. Avant, il n'y avait pas de groupe de parties intéressées. Et ces groupes de parties intéressées permettent que les regroupements puissent être créés et qui est conçu pour permettre que les changements puissent avoir lieu. Par exemple, depuis l'adoption de la nouvelle structure, nous avons vu de nouvelles unités, de nouveaux regroupements qui ont été créés. Le dernier, c'est le MPAC ou le N-EPOC. Je ne me souviens pas exactement ce que cela veut dire. Nous avons parfois des acronymes dont nous ne nous souvenons pas la signification, mais bon, cela fait partie du regroupement non commercial et il fait partie de la GNSO et cela permet une participation plus ample pour les personnes qui n'ont pas été incluses avant dans le processus de la GNSO. Un dernier commentaire qui surgit de votre commentaire. Vous avez évoqué ce que vous avez évoqué concernait plutôt le regroupement des registres, car vous avez évoqué l'impact des nouveaux registres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer là-dessus. Je sais que Jeff peut-être voudrait s'exprimer là-dessus. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il d'autres commentaires ? Des commentaires avant de passer au point suivant de l'ordre du jour. Jonathan et Jack.
Monsieur Robinson prend la parole. Je voudrais signaler quelque chose dont je n'ai pas parlé avant et que l'on a peut-être anticipé. Les nouvelles incorporations, bien qu'il puisse s'agir de registres, pourraient participer de la GNSO à travers une autre racine ou même avec un groupe de parties prenantes ou de regroupement. On a anticipé cela et la manière dont on a traité ce sujet, dans la mesure où ces groupes de parties prenantes soient des entités avec droit de vote, comme dans la structure de la GNSO, il faut qu'il y ait un gap, une brèche. Mais en tout cas, la structure indique une flexibilité quant à la manière d'envisager cela dans l'avenir et comment on peut sélectionner une partie alternative de la structure de la GNSO. Merci, dit Madame la Présidente. Jeff Newman prend la parole. Je crois que ce que Jonathan a mentionné a une variante. La structure est flexible actuellement. Elle est suffisamment flexible pour ne pas attendre des changements fondamentaux à la quantité de représentants au sein du Conseil de la GNSO ou d'autres groupes pouvant être créés. Mais de même qu'avec les unités, avec les constituantes d'affaires, il y en a d'États et il peut s'agir d'un registrant de GTLD ou un nouveau domaine générique de premier niveau ou une marque. Et le registre des parties prenantes a un processus pour créer d'autres tout neufs. Mais Il faut aussi créer des groupes d'intérêt sur des questions spécifiques qui n'ont peut-être pas de différences fondamentales avec les autres types de TLD, mais peut-être qu'ils sont spécifiques. On a consacré pas mal de temps au registre et à la charte pour anticiper ce qui pourrait se produire. Et le groupe des parties prenantes des registres, nous, on est prêts pour ce défi. On ne sait pas très bien ce qui va venir, mais on est préparés. Madame la Présidente prend la parole. Je ne vois pas d'autres demandes de commentaires sur cette question. Maintenant, il y a la présentation de Steve Del Bianco sur l'élection de la défense de la concurrence, du groupe de travail de la défense de la concurrence du consommateur. Steve Del Bianco prend la parole. Merci beaucoup. On peut passer à la deuxième diapo. Tout d'abord, nous voulons demander pourquoi la métrique, les instruments de mesure du consommateur sont importants. Pourquoi cela intéresse le gouvernement et le GAC? Et lorsque l'on parle de l'affirmation des engagements de 2009 qui exige les quatre révisions de l'ICANN avec lesquelles on est familiarisé, c'est justement la révision 9.3, à savoir la révision sur l'expansion des GTLD qui a permis un choix de la concurrence. Cette révision va continuer pour voir l'efficacité des applications des candidatures et du processus d'évaluation et va tenir compte de ce que l'on établit pour diminuer l'influence de ce qui se passe au fur et à mesure. Que veut dire ce qui apparaît dans les diapos? En 2009, le Conseil de l'ICANN a établi les quatre groupes ALAC, a demandé l'avis de l'ALAC, le GAC, la GNSO et la CCNE, a demandé des définitions pour trois étapes clés, l'élection de la concurrence, l'élection d'autres instruments de mesure possibles et la concurrence. Il voulait évaluer également les objectifs de trois ans sur ces mesures, bien que la Commission n'envisageait pas des choses concernant cet objectif. Nous pourrons aider l'ICANN à mesurer et à gérer le programme des nouveaux GTLD dès que la révision commencera. Ginny, on peut passer à la diapo suivante. En 2011, les membres d'ALAC se sont réunis et le conseil de la GNSO a répondu et a créé un groupe de travail qui a donné l'avis de la GNSO au Conseil. Il s'agit d'un groupe ouvert avec la participation de la communauté et des membres de l'ALAC qui ont été très actifs. Je devrais dire que le groupe de travail et le Conseil n'a pas l'intention de limiter l'affirmation faite par l'équipe, mais lors de la réunion en 2013 et en 2014, la définition des métriques pourra être établie, mais on n'a pas la certitude. Nous espérons que cela puisse être défini à ce moment-là. Nous avons aussi en février une période de commentaires qui va être clôturée le 7 mai. On a révisé le 75% de ces commentaires et on va finir le mois prochain. Nous allons directement à la diapo 5. Je veux montrer aux membres du GAC les définitions. Après avoir incorporé les apports des commentaires du public, la définition de consommateur a été notre premier enjeu. Le consommateur est potentiel et il est réel. Ceux qui ont des noms de domaine, ceux qui veulent des noms de domaine ou des registrants potentiels, les utilisateurs d'Internet, bien entendu, qui représentent les deux. Et cela a trait à l'établissement de nouvelles étiquettes et les nouveaux utilisateurs qui, avant les nouveaux GTLD, ne pouvaient pas établir d'étiquettes ou d'écrire des emails dans leur propre script. Nous tenons compte de la confiance du consommateur. Le DNS inclut tout d'abord, on veut évaluer s'il y a la confiance sur la consistance de la résolution de domaine du DNS et nous voulons aussi lire la confiance des registres pour le nouveau TLD pour voir si l'on respecte l'objectif, la question 18, et savoir aussi s'ils respectent les politiques de l'ICANN et s'ils demandent et s'ils appliquent les lois nationales. Cela est très important et voilà pourquoi je l'ai marqué en rouge parce que dans la mesure où les registrants et les opérateurs qui ont un GTLD doivent respecter les lois qui régissent tout cela et les personnes auxquelles ils aident. Il faut signaler aussi que les registres proposent des questions importantes pour le GAC parce que le GAC peut faire confiance à tout ce que mentionne la question 18. Si on décide d'appliquer une alerte précoce ou présenter une objection ou poser des questions, le groupe de travail se rend compte qu'il est important de regarder en arrière et voir ce qui a été dit sur la question 18 et quel est l'objectif des TLD. Ceci est contraignant et nous pouvons évaluer la mesure où les GTLD ont évolué. Nous allons pouvoir ajouter cela en réponse aux propos des gouvernements. Nous avons la notion de confiance sur la fonction du respect de l'ICANN. La définition de consommateur, je répète, pour l'affirmation de la résolution, il faut définir le choix du consommateur. Il s'agit des options disponibles pour les consommateurs pour les différents scripts et les différentes langues. Et les TLD qui est des options significatives pour les objectifs proposés, l'intégrité des registrants de nom de domaine. S'il y a quelqu'un qui veut vendre des vélos, peut-être il ne va pas avoir l'élection. Il devait choisir .com et .biz. Et maintenant, il peut choisir le .bike. Donc, c'est important. Et si quelqu'un veut rejoindre un TLD qui a des restrictions pour les registrants ou des TLD communautaires, il y a des TLD communautaires dans ce cas. Alors, le registrant va dire quel est l'investissement qu'il va faire pour ce nom de domaine et il va le mettre dans sa carte commerciale. Il va faire des investissements et ils veulent faire confiance aux promesses. Et finalement, la dernière définition, c'est la concurrence. On parle de la quantité, de la diversité, du potentiel pour le marché de la concurrence entre les GTLD, les opérateurs de registre TLD et les bureaux d'enregistrement. Diapo numéro 7, je voulais résumer brièvement quelques questions principales sur lesquelles on travaille et j'espère que le membre du GAC puisse faire attention à cela. Il y a 45 métriques différentes. Il y a 45 indicateurs. Il y a des défis potentiels pour établir les coûts et les indications. Il y a une combinaison de statistiques qui inclut les coûts. Il y en a qui ont trait aux TLD délégués que l'on a mentionné aujourd'hui et d'autres avec les années précédentes. On voit les TLD comme groupe et nous voyons quelle est la conduite et quelle est la tendance. Pas tous les indicateurs. On va avoir des cibles de 3 ans. Par exemple, le Conseil nous a demandé, hein, mais tous ces indicateurs ou toutes ces mesures vont mener à bien le développement de politique. Ce n'est pas très clair. Par exemple, ma fille a une carte de 45 indicateurs dans ce bulletin, mais j'espère qu'elle puisse savoir ce qui est inclus dans ce bulletin. Donc, il y a pas mal de questions qu'il faut appliquer lorsque cela apparaît dans un contrat. Le deuxième point, c'est les enquêtes relatives à la confiance. On leur demande aux gens sur la perception, la confiance sur les nouveaux GTLD contre les GTLD actuels ou précédents. Il faut voir quelles sont les 1400 étiquettes et s'il sera plus facile dans un cas ou dans un autre. On va leur demander de l'abus du DNS et aussi du cyberdélit. Nous mettons l'accent que selon la résolution du conseil d'administration, on évalue l'incidence de l'abus du DNS. Je vais vous donner un exemple. Nous voyons le cyberdélit, la question du cyberdélit qui apparaissent aux États-Unis et nous pouvons lire les différentes plaintes qui apparaissent au fur et à mesure et il va y avoir des centaines de milliers de GTLD délégués. Mais cela doit être fait en rapport avec les numéros d'enregistrement. Par exemple, s'il y a 1000 UDRP et 1 million d'enregistrements, c'est un rapport d'environ 1000. La même chose se passe avec les opérateurs de registre. Si l'on compare les régions et le respect de cette région, il faut voir le taux de ces enregistrements dans cet espace des registres et des nouveaux registres qui apparaissent. Avec le choix du consommateur, nous voulons dire que le registre sélectionne un tel aidé. On se demande si on sait comment on fait pour des objectifs de défense. Il s'agit d'un concept très imprécis et il faut voir comment faire pour gérer ou comment apparaissent ces défenses. Il faut savoir ce qui se passe avec le Sunrise, le proxy. On va voir des enregistrements redélégués à une étiquette de TLD. Ça aussi, c'est un proxy. L'ensemble des données vont montrer comment, dans 2 ou 3 ans, si le nouvel espace de GTLD est agrandi ou si ces étiquettes vont passer à un nouveau contenu, un contenu tout neuf et pas un redirectionnement. Pour ce qui est de la concurrence, nous voulons parler des prix au détail et en gros pour les domaines et nous proposons de comparer ces prix. Le gouvernement des États-Unis a commenté au sein du groupe de travail et le gouvernement était très intéressé sur certaines données pour les délégations et pour les TLD. L'ICANN est préoccupé pour ce qui est de la collecte des prix non publics. Et nous avons présenté ce problème et on va recommander qu'un tiers soit engagé pour étudier ces données et de partager les statistiques et les mesures sans dire quels sont les prix en gros s'il ne s'agit pas de prix publics. Il faudrait suggérer finalement que le gouvernement des États-Unis a dit que les données sont importantes pour mesurer les bénéfices des nouveaux TLD et pour voir qu'ils avaient un poids plus grand pour le coût des consommateurs. Netflix est très connu par beaucoup d'entre vous parce que je sais que lorsque l'on a parlé de groupes économiques ou du cadre pour les nouveaux GTLD, eh bien, nous, on s'est réunis avec le gouvernement des États-Unis pour concilier tout cela parce que ce commentaire d'un bénéfice qui dépasse le coût a trait à ce que le GAC nous a demandé. Mais dans l'affirmation des engagements, cela n'était pas inclus. L'équipe de révision a mesuré tous les bénéfices. Il les a évalués par rapport aux coûts et il y a fait la conciliation. Le groupe de travail n'a pas tous les coûts et les bénéfices, mais pourtant, il y a des questions significatives qui vont être mesurées, ce qui va être utile pour le GAC. Et finalement, au point 8, nous avons les délais. Vous voyez comment ça marche. Et le Conseil va recevoir la version préliminaire en juillet. Il va avancer petit à petit. Et le conseil de la GNSO va le partager avec la HAC, la CCNSO et le GAC. Et nous voulons vous inviter à utiliser cela comme point de départ. Peut-être devrez-vous attendre jusqu'à ce que le conseil de la GNSO donne son soutien ou fasse une réforme à ce projet. Cela dépend de vous en définitive. Le conseil d'administration va considérer tous les conseils, non seulement de la GNSO, mais de toutes les autres organisations. Et on va adopter les définitions et les métriques avant le lancement des nouveaux GTLD vers la moitié de l'an 2013. Cela veut dire que le personnel de l'ICANN peut commencer à collecter des données, à faire des modifications au système, etc. Collecter les enquêtes sur les fournisseurs disponibles et n'oubliez pas l'équipe d'affirmation des engagements. Cette équipe doit commencer son travail vers la moitié 2014 et peut-être il va finir en 2015. Ça va lui prendre plus d'un an, ce qui veut dire que l'équipe va se réunir probablement vers la fin 2013 pour finir le travail en 2014, un an après le lancement des nouveaux GTLD. Pour finir, Madame la Présidente, ce conseil serait très important pour mesurer les nouveaux GTLD parce que c'est ce que l'on entend constamment. Savoir quelles sont les mesures et ce que l'on mesure, c'est ce que l'on va faire. Merci beaucoup. Madame la Présidente va prendre la parole. Merci beaucoup de la présentation, Steve. C'est un très bon résumé de toutes les questions ayant été considérées par le groupe de travail. Je vous remercie énormément de la ligne de temps que vous avez tracée ici. Cela est très utile pour nous qui essayons d'évaluer constamment où devons-nous centrer notre attention au sein du GAC et pour pouvoir identifier où et comment Il faut concentrer nos efforts. Cela nous aide énormément parce que cela nous donne une manière de contribuer aux questions qu'il faut traiter. Et le conseil d'administration a demandé à la communauté de faire des commentaires. Il y a une énorme variété de questions que tu as mentionnées dans ta présentation et je crois que dans des séries futures et avec l'équipe de révision, on sera très intéressé à voir quel est l'impact. Et d'après ce que je me rappelle, le GAC a déjà donné son avis au programme des nouveaux GTLD. Il a dit qu'il y doit y avoir des manières d'évaluer ces impacts et de comprendre de manière approfondie quels sont les bénéfices par rapport au coût, tel que tu l'as signalé dans ta présentation. Je voudrais savoir s'il y a des commentaires des membres du GAC ou des questions pour Steve ou pour la GNSO. Le Royaume-Uni demande la parole.
Merci, Eder. Merci, Steve, pour cette présentation aussi complète et aussi utile. Il s'agit vraiment d'un travail précieux car elle nous permet d'anticiper des révisions. Et ce sera d'une grande aide lorsqu'il faudra répondre aux demandes du Conseil. Et c'est vraiment très utile et c'est très rassurant, car il s'agit d'un travail très important pour les gouvernements. Une grande partie des gouvernements seront donc interpellés par les organisations de consommateurs et recevront les demandes des nouveaux GTLD et de façon générale. Au fur et à mesure que l'on va avancer, il faudra considérer l'avis des consommateurs dans ce processus d'expansion du système de nom de domaine. Tout ce qui concerne les élections, la concurrence, l'innovation, le contenu, toutes ces questions doivent être prises en compte. Il s'agit donc d'une question fondamentale. Je soutiens donc ce travail. Le GAC sera bien sûr représenté dans la révision. Et il nous faudra commencer à augmenter notre engagement dans ce domaine, établir un ordre du jour général, comme vous l'avez bien dit, pour analyser les coûts et les bénéfices. J'ai quelques questions à poser qui peut-être que je n'ai pas bien lu ce que disaient les diapositives, mais en ce qui concerne la confiance, vous vous concentrez sur les opérateurs de registre des GTLD, sur la façon dont ils ont respecté leurs objectifs et la façon dont ils ont respecté les exigences du processus. Je me demande pourquoi vous focalisez sur ces critères? Il y a d'autres acteurs, il y a les registrants qui interagissent aussi avec les consommateurs. Ma question est la suivante. Vous pensez uniquement aux registres ou bien envisagez-vous d'autres acteurs du point de vue de la confiance? Et ma deuxième question, j'ai été très intéressée à la référence que tu as fait à la question 18 dans les documents de la demande de candidature. Pour certains d'entre nous qui commençons à voir ces candidatures en détail, nous sommes allés directement à ce point, à savoir quelle est la mission, le but du candidat et quel est l'intérêt du candidat de fournir un nouveau service aux consommateurs? Nous croyons qu'il s'agit d'un engagement très fort et on espère que cet engagement soit tenu au long de la vie utile du nom de domaine. Cela fait partie de la candidature, comme tu l'as bien dit, mais il n'y a pas une clause contractuelle là-dessus. Ma question est de savoir si vous considérez qu'il faudrait être plus ferme au niveau de ces affirmations qui répondent à la question 18. Et à ce moment-là, s'il faudrait établir un engagement plus durable de la part du candidat. Et d'en tenir compte si la candidature est acceptée. Je voudrais peut-être que tu approfondisses sur ce point-là. La présidente prend la parole. Merci beaucoup. J'ai l'Égypte et le Portugal. Steve, tu veux répondre maintenant à la question? Steve prend la parole. Merci, Marc. La première question concernait les indicateurs de confiance des consommateurs, voir si on pouvait y inclure d'autres acteurs, car nous nous focalisions surtout sur les registres. En réalité, le document concernant la confiance du consommateur a plusieurs indicateurs, a un grand nombre d'indicateurs, et certains de ces indicateurs font référence à d'autres acteurs. Par exemple, le sondage qui va être mis en place sera un sondage sur l'expérience des bureaux d'enregistrement pour savoir comment ils choisissent et comment ils achètent le meilleur accord et voir si c'était clair, si les termes du service étaient clairs et si le but de GTLD était clair. D'autre part, il y avait les avis de non-respect en ce qui concerne la politique ou le contrat. Et dans ce type de cas, on tient compte des registrants. Cette question liée au respect des contrats sont mesurées dans le but de parvenir à un nombre plus petit que l'incidence qu'on avait pu constater avec les TLD. Il y a aussi des indicateurs qui concernent les services privés, les gens qui vendent des non-services, de non-domaines à des services privés. Bref, il y a des aspects qui concernent les bureaux d'enregistrement, d'autres aspects qui concernent les registres et d'autres aspects qui concernent d'autres parties contractuelles de l'ICANN. Ta deuxième question concerne la question 18. Et tu as raison, la question 18 est une affirmation de ce que nous souhaitons, mais les résultats ne sont pas obligatoires. La question 18 est là pour que le candidat standard qui n'appartient pas à la communauté puisse répondre et que nous puissions voir ses réponses et sur la base de cette réponse juger s'il faut mettre en place une alerte précoce ou s'il faut faire intervenir les activités en matière de concurrence ou demander au candidat de modifier certains aspects ou de promettre certains aspects. Cela relève d'un accord entre la personne, entre le candidat et les évaluateurs de la candidature. Mais le grand défi ou la grande difficulté ici tient au fait que si la candidature progresse, les candidats doivent être fiable et cela ne doit pas rester en lettre morte. Les modèles de services doivent être améliorés, la technologie doit être incorporée ainsi que les progrès du marché. Tous les 3 ou 5 ans, les TLD ne vont pas être évalués pour voir s'ils ont tenu leurs promesses, mais il faut quand même vérifier cela. Jeff, tu voudrais répondre? Jeff prend la parole. C'est un avis personnel de Steve. Il y a des gens dans la GNSO qui ne seraient pas d'accord avec le fait de faire en sorte que cela devienne une clause contractuelle. Steve, je pense que c'est son avis personnel. Nous pensons qu'il y a un grand nombre de questions qui doivent être prises en compte et qui concernent l'avenir. Que le candidat ait de bonnes intentions ne veut pas dire qu'au fur et à mesure qu'il va avancer, il y aura des changements. L'avis de Steve n'est pas forcément l'avis de toute la GNSO. L'Égypte va prendre la parole, le Portugal et puis la Commission européenne. L'Égypte prend la parole. Merci Steve pour cette présentation. Je voulais faire un commentaire rapide par rapport aux indicateurs concernant les consommateurs. Le consommateur, il est très important le consommateur final est très important. Et je n'ai pas vu que l'on fasse référence ou que l'on évoque l'utilisateur final dans les indicateurs. Par exemple, quelles sont les attentes des utilisateurs finaux? Quel est le service que l'on fournit aux utilisateurs finaux? Le choix, s'il y a trop de choix, cela peut être confus pour l'utilisateur final. Et outre le registrant, les bureaux d'enregistrement et les registrants, les utilisateurs finaux devraient être mentionnés cela pour être plus proactifs. Madame la Présidente prend la parole. Steve, tu veux répondre? Steve prend la parole. C'est une bonne suggestion. Tu vas être rassuré de savoir que parmi les 45 indicateurs, il y en a 25 qui sont liés à l'utilisateur final en tant que consommateur. Par exemple, la mesure du choix montre le nombre de TLD qui utilisent une autre langue ou une langue autre que l'anglais. Et nous avons le nombre de sites web des registrants. Et tu as parlé de la confusion. On espère tous les ans faire un sondage sur l'expérience utilisateur final. Et cela pour voir s'il y a une confusion ou voir si les étiquettes qui existent et qui n'existaient pas sont utiles ou pas. Le Portugal prend la parole. Merci. Une partie de ma question a été déjà répondue dans le dialogue entre Steve et l'Égypte. Je voudrais donc mettre l'accent sur les mesures et les observations. Les utilisateurs finaux, la perception de l'utilisateur final, vu du point de vue des impacts des nouveaux GTLD, peuvent nous donner une vision segmentée, car cette vision est liée aux aspects culturels, à la langue, aux pratiques communautaires qui sont très difficiles à mesurer. Il est donc important de voir quel est l'impact des TLD de ce point de vue-là, pour voir s'il y a des implications immédiates, aussi bien du côté des consommateurs que des utilisateurs. Merci le Portugal. Union européenne. Le représentant de la Commission européenne prend la parole. Merci, Monsieur Bianco, pour cette présentation aussi informative. J'ai deux commentaires et une question. Le commentaire concerne les indicateurs. Il est clair que le groupe de travail a consacré un grand effort à définir ces indicateurs. Juste en guise de précaution, il ne faut pas faire en sorte que ces indicateurs deviennent plus complexes qu'il ne faut qu'ils le soient. Les indicateurs du marché européen, nous avons beaucoup d'expérience au niveau des indicateurs et nous savons l'effort que cela implique. Et cet effort n'est pas forcément... On ne connaît pas vraiment quels sont les efforts qui sont consacrés à ces efforts. Donc il faut pas que ces indicateurs soient trop nombreux pour pas créer de confusion. Et cela n'est pas strictement en rapport avec cette présentation, mais en ce qui concerne la question 18, j'ai bien écouté vos commentaires et j'ai écouté la correction que M. Newman a apportée. Et il faut savoir que du point de vue de l'Union européenne, ce qui est écrit dans la réponse à la question 18 est un élément important, car il va motiver notre réaction vis-à-vis du candidat. Et pour le dire en termes diplomatiques, nous ne serons pas contents ou contents de découvrir que ce qui a été dit par rapport au modèle de business n'est pas, la promesse n'est pas tenue. Et si un candidat s'engage à établir certaines firewalls et que après cela n'est pas respecté, nous ne serons pas contents. Et ma question est la suivante. Sur la liste d'indicateurs, il y a plusieurs sources pour ces indicateurs. Mais sur l'écran, je demande à Jenny de la montrer. Vous dites que le personnel va commencer à collecter des indicateurs en 2013. Je voudrais des précisions par rapport à cela. Cela fait référence au personnel de l'ICANN, c'est-à-dire que le personnel de l'ICANN va gérer la collecte de ces indicateurs, y compris ceux dont la source provient de tierces parties. Est-il du ressort de l'ICANN, du personnel de l'ICANN, de faire ce travail ? Steve prend la parole. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le fait de ne pas compliquer les choses par rapport aux indicateurs, si vous êtes des experts dans le domaine des indicateurs, nous allons recevoir ou accueillir favorablement tout commentaire de la part de ces experts. Vous avez parlé après du personnel de l'ICANN. Nous avons l'impression que le conseil d'administration a établi cette résolution. Et si on lit la résolution, on voit que cela implique, cela fait participer le personnel de l'ICANN dans cette question des indicateurs. Le personnel de l'ICANN fait appel parfois à un fournisseur de services pour mettre en place cette activité. Il peut y avoir des sources de l'industrie pour fournir ces indicateurs, par exemple Alexa. Et ce rapport à des tiers, ce recours à des tiers peut être établi et il est important au sein du programme de faire quelques ajustements et puis donner toutes ces informations à une équipe de révision en 2014 ou 2015. La présidente prend la parole. Merci. Je pense qu'il ne nous reste que quelques minutes pour aborder un point de l'ordre du jour, mais certainement c'est une question sur laquelle le GAC pourra se pencher en termes de suivi, car c'est important du point de vue des gouvernements. Avant de conclure, nous allons passer à la question du Comité olympique international de la Croix-Rouge et les nouvelles étapes après le refus des recommandations du Conseil par le Conseil d'administration. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques informations par rapport à l'état de situation pour que les membres du CAC puissent avoir un peu de contexte avant de parler des difficultés par rapport à cette situation. Stéphane prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Steve Newman a été ou est encore la personne qui est à la tête de l'équipe de rédaction pour la GNSO. Donc, on a demandé à Jeff et il va donc vous parler de ce sujet. Jeff prend la parole. Je dois vous fournir un peu le contexte. Comme vous vous souvenez, en septembre de l'année dernière, ou peut-être avant, à Singapour, en juin de l'année dernière, le conseil d'administration a approuvé une résolution qui établissait un moratoire pour l'enregistrement du terme Olympic et Red Cross ou Croix-Rouge au premier niveau. Cette résolution a mis en place un processus dans lequel on demandait que s'il y avait des protections à mettre en place pour ces noms en particulier, cela devait être analysé par le GAC et la GNSO. En septembre, le GAC a envoyé une lettre à la présidente de la GNSO avec certaines recommandations pour protéger ces noms au premier niveau et au deuxième niveau pour le Comité olympique international et la Croix-Rouge. En octobre, dans la réunion de Dakar, la GNSO a créé une équipe de rédaction dont je suis le président, pour analyser ces questions et donner son avis au Conseil pour répondre à la proposition du GAC. Au Costa Rica, cette équipe de rédaction a formulé ses recommandations au Conseil de la GNSO et nous en avons discuté avec le GAC. Du point de vue des recommandations au niveau supérieur, le Conseil de la GNSO a voté cette motion fin mars en faveur d'approuver cette protection dans le niveau de premier niveau. Cela a été soumis au conseil d'administration et le conseil d'administration a répondu 2 jours avant la date de clôture de candidature, vers le 12 avril. Le conseil d'administration donc a répondu vers le 10 avril en disant que à ce moment-là, même si les recommandations avaient été considérées, ils allaient maintenir le statu quo pour les protections de premier niveau. Depuis, nous avons eu des annonces, mais personne n'a demandé le nom de la Croix-Rouge, le Comité olympique international. Donc, on n'a pas de problème pour cette première série. peu après le Costa Rica, une fois que les recommandations de l'équipe ont été formulées, nous avons commencé à travailler sur les protections au deuxième niveau pour faire une proposition sur les recommandations du GAC. Et je suis contente de dire que cette équipe de rédaction a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à la considération de cette proposition afin d'avoir des alternatives et contribuer à cette question de la Croix-Rouge et du Comité olympique international. Nous avons eu recours à ces organisations. Il y a eu beaucoup de communication entre l'équipe de rédaction et ces deux organisations. Il y a eu un échange très intéressant et on a demandé à chacun des membres de l'équipe de rédaction de revenir vers leur regroupement, leurs parties intéressées, leur comité consultatif pour revoir ces propositions qui avaient été formulées. Pour venir donc à cette réunion mercredi, avec un retour de la part de ces groupes, et ceci pour que les recommandations de l'équipe de rédaction puissent être présentées au Conseil avant notre réunion à Toronto. Voilà l'objectif. Nous avons d'autres interventions. Je voudrais partager avec vous seules ces informations parce que nous essayons de comprendre encore comment cela est lié. Je crois que c'était au Costa Rica que les organisations intergouvernementales ont présenté une lettre au président et au président du conseil d'administration en demandant des protections supplémentaires pour ces groupes au premier niveau et au deuxième niveau. Cette lettre a été présentée par le PDG et le président du conseil au président de la GNSO et je crois aussi au GAC en demandant notre conseil par rapport à cette lettre. Début avril, le président de la GNSO a envoyé une lettre au conseil d'administration de l'ICANN qui disait très spécifiquement qu'il pouvait s'agir d'une question dont on voudrait peut-être entendre l'avis du GAC. Et depuis, nous avons eu une motion au conseil de la GNSO pour élaborer un rapport initial concernant la protection des noms d'organisations internationales pour les GTLD. Ce rapport préliminaire vous a été fourni, vous l'avez dans vos dossiers, est soumis donc en ce moment à une période de commentaires publics, de consultations publiques. Il y aura une période très courte de réponse à ce document. Et car ce document touche à certains aspects qui ont été déjà abordés en ce qui concerne la protection des noms d'organisations intergouvernementales et les noms des ONG, ainsi que les noms des organismes internationaux. Ça veut dire, si on veut entamer un PDP dans ce sens, on est ouvert à prendre cette décision ou à prendre cette voie. Il s'agit d'un rapport préliminaire. Nous attendons vos commentaires et probablement pour le mois d'août, ce rapport deviendra un rapport final qui arrivera au Conseil, qui sera présenté au Conseil pour entamer un processus d'élaboration de politiques formelles. Il peut y avoir des discussions dont il faudra tenir compte par rapport au Conseil, par rapport au Comité olympique. Et il y a un troisième événement, c'est que qui est lié aux enregistrements défensifs. Il y a un rapport, je sais que c'est un rapport public parce que le personnel de l'ICANN nous l'a envoyé, mais je ne sais pas si cela a été distribué à tout le monde. Il y a ici certains points qui se chevauchent pour le Croissant Rouge, la Croix-Rouge et le Comité olympique international. Donc, pour cette réunion, nous espérons pouvoir résoudre cette question, voir quelle est la voie à suivre pour chacun des organismes et essayer de répondre aux recommandations du GAC par rapport à la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et l'OIC. Voilà un petit peu l'état de situation. Il y a beaucoup d'informations. Je sais que je ne suis pas aussi concret que je le voudrais. Et il y a beaucoup de pièces qui bougent en ce moment et qui fonctionnent tous, qui bougent toutes en même temps. La présidente prend la parole. Merci, Jeff. Nous te remercions pour toutes ces informations. Et cette comparaison, cette métaphore avec les pièces qui bougent en même temps est vraiment très pertinente, car ça nous donne un peu l'idée de la complexité de la question. Nous essayons donc de faire fonctionner toutes ces connexions, voir comment on peut fonctionner en commun. Il y aura des commentaires et nous allons fournir donc notre conseil le moment venu. Nous avons un contact ou certains contacts au niveau du GAC par rapport à cette question. Il serait peut-être utile ou pertinent que les États-Unis nous fassent un petit peu un état de situation par rapport à cette question. Les États-Unis.
Les États-Unis prennent la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Jeff, de ta présentation. Tu n'es pas sûr du lien de tout cela. Eh bien, je suis soulagée de l'entendre. Je pense que nous n'avons même pas eu la possibilité de le discuter, mais je suis sûre que nous n'avons pas non plus une idée de la manière dont toutes ces différentes pièces sont liées entre elles et comment il faut prévoir les prochaines démarches à suivre. Je te remercie de ta présentation et j'apprécie ton intention et ton espoir de pouvoir résoudre ces questions vers la fin de la semaine pour pouvoir partager cette information et que nous sachions quel est le chemin à suivre. Je dirais que tel que tu l'as mentionné, ce rapport de problème met en évidence la situation de la Croix-Rouge et du Comité olympique. Le titre était un peu confus parce qu'on disait qu'on allait se focaliser sur l'OIG, mais ce n'était pas très clair et nous ne savions pas si nous avions bien compris le rapport. On pourrait le laisser comme ça en termes préliminaires, mais je voudrais partager. On est au courant de certaines questions supplémentaires qui ont eu lieu dans le contexte du Comité olympique et de la Croix-Rouge, des actions que l'on entreprend. Et on pourrait faire circuler cette information entre les membres du GAC pour savoir où ils en sont. Et il y a des questions supplémentaires à en tenir compte lorsque nous essayons de mettre en ordre tout ce puzzle. Il s'agit d'un point d'information que nous pouvons partager avec vous. Je crois qu'une autre question que je vais mentionner est plutôt pour vous informer. Nos échanges avec le conseil d'administration à travers les recommandations et le groupe de travail de recommandations et de mise en œuvre du conseil et du GAC, nous avons pu aborder ces questions qui ont été mentionnées dans le cadre de la TRT. Dans ces échanges, nous avons perçu beaucoup d'intérêt parce que ceci est issu du GAC. On est très intéressés à mieux comprendre quel est le justificatif pour le suivant lequel on rejette les recommandations de la GNSO. Nous valorisons beaucoup l'effort de l'équipe de rédaction pour le développement et l'élaboration de ces recommandations. Vous avez pris notre idée et vous êtes allé au-delà. Vous l'avez élargi. La recommandation 7 de la TRT, je ne me rappelle pas la terminologie exacte, mais pour que tout le public, les documents soient publics, et tout cela était basé sur les décisions du Conseil. Je crois qu'il devrait y avoir un rapport du personnel de l'ICANN. Monsieur le Président, Madame la Présidente prend la parole. Les États-Unis, Jeff, s'il te plaît, Jeff Newman prend la parole. Nous avons demandé non seulement ces documents, mais aussi les documents qui montrent la raison pour laquelle le conseil d'administration a approuvé la motion à Singapour et quelle est la justification ou les arguments utilisés pour la protection des marques du comité olympique et de la Croix-Rouge en premier lieu. Le conseil d'administration publie de temps à autre ces documents d'information, mais ces pages spécifiques contiennent l'information de référence sur la question. Elles parlent de ce que le COI a demandé, ainsi que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, mais il y a des pages en blanc qui disent « informations privilégiées et confidentielles ». Alors, le conseil d'administration n'a vraiment pas mis à disposition la documentation. On leur a posé la question. On n'a pas eu de succès. On a formulé notre demande depuis un an. Nous ne comprenons pas pourquoi ces informations doivent être privées et confidentielles. Elles nous auraient permis de mieux faire notre travail, de le faire plus facilement. On aurait vraiment diminué notre travail et nos démarches. Le Royaume-Uni, très brièvement, je voudrais dire, tout d'abord, c'est un peu confus parce qu'il y a pas mal de questions qui se mêlent un peu, mais je voudrais remercier en tant que leader de cette équipe de travail de rédaction de tout ce qui a été fait vis-à-vis du comité olympique, du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Je suis très confiant que malgré d'autres événements qui surgissent, il y a l'engagement de finir les recommandations pour la réunion de Toronto. Ceci sera très apprécié. Le risque de diversification de ces situations on est conscient de tout cela. Il y a un ensemble de questions sur lesquelles on fait des progrès avec l'équipe de rédaction. Voilà pourquoi je tiens à vous remercier de tout ce travail. J'espère être en mesure de lire le rapport sur les OIG. C'est les demandes présentées jusqu'à présent et j'ai pas eu la possibilité de lire plus que le résumé qui a été présenté. On dit qu'il s'agit d'une très bonne contribution au débat concernant les OIG. Madame la Présidente prend la parole. Merci, le Royaume-Uni. Il y a un peu de confusion, je crois, pour voir comment on réunit tout cela, mais je veux remercier la GNSO de se réunir avec nous aujourd'hui, de nous donner tous les documents et aussi pour nous fournir des informations et du contexte sur ces questions qui ont été si utiles pour le travail du GAC et qui nous a beaucoup aidé à nous préparer pour cette session. Je sais que c'est un dur travail pour vous. Et je tiens à vous remercier justement de tout cela. Nous allons parler avec vous pendant la semaine, certainement dans les couloirs. Et la semaine sera intéressante dans plusieurs sens. Merci beaucoup. Pour le GAC, demain, nous allons commencer à